c'est par Jupiclas sur France Inter. C'est le mercredi, c'est comme ça que ça se passe.
Mais oui, Laetitia Gaillet. Vous savez, on est en pleine répétition. Vous entendez? Voilà. Ça, c'est Marina Chiche.
Ça, c'est pour le cours de musique.
Ouais, exactement.
Bon, ben, bon courage, Charline.
C'est le petit conservatoire de par Jupiter qui va démarrer.
Ça fait mal aux oreilles.
Oh, et encore, ça, c'est rien. À tout de suite. Merci, Laetitia.
9h dans le bureau de par Jupiter.
Comme vous le savez, le gouvernement a décidé de repasser au niveau 3 du protocole sanitaire dans les écoles.
Donc on est obligé de porter le masque
tout le temps.
Même à la
récré? Ah bah oui, surtout, ça veut dire aussi qu'il faut bien le porter, n'est-ce pas Alex?
Non mais pardon, il tombe.
Eh ben on le remet sur le nez, pas sous le nez Alex. Vous l'avez vu passer le dessin qui comparait les masques au slip?
Ah bah non. Mais si tu mets pas ton nez dans le masque, il sert à rien. Voilà. C'est comme si tu mettais pas ta caquette dans ton slip.
Ah voilà, bah j'aurais pas dit mieux.
Voilà.
Parce que la caquette, il faut la mettre dans le slip.
C'est nul les masques, en plus moi ça me donne de l'eczéma.
Oui, bon, on n'a rien trouvé de mieux pour l'instant pour se protéger.
Dans le maillot de bain, je le savais, mais dans le slip, je...
Guillaume, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Non, il faut mettre le masque là.
Mais je bois mon café là.
Mais ça fait une heure que tu bois du café.
Oh, mais il est bien obligé de l'enlever.
Mais oui, c'est comme quand on va faire pipi, il faut bien descendre son slip.
Bah ouais, bon, du coup, moi je gagnais un peu de temps, mais...
En plus, on peut même plus aller à la cantine.
Bah c'est comme ça, ça fait circuler le virus.
Mais franchement, dans le protocole, c'est pas indiqué que les frites elles sont porteuses. Hein.
Ah, mais les salsifis, oui, je crois. Donc il vaudrait mieux les bannir.
Bon, écoutez les garçons, vous voulez voir votre famille à Noël et profiter des fêtes?
Oui.
Eh ben
oui,
voilà, faut porter le masque, un point c'est tout.
Et sur le nez,
voilà.
Oui.
Allez,
oui.
Maintenant je vais vérifier si les techniciens le portent bien aussi. Allez.
Oh là là, c'est pénible. Hein.
Allez, elle est partie, tu peux l'enlever.
Oh là là, ouais. Ah, on est mieux là.
Ah bah, on est mieux, comme quand on enlève son slip.
Non mais attends, mais sérieusement Alex?
Quoi?
Tu savais pas pour la caquette dans le slip?
En fait, je m'en fiche parce que je porte pas de slip.
France Inter et bienvenue chez les petits magiciens de votre redevance. Oui, parce qu'on l'a fait disparaître.
Oui, on la transforme en blague.
Et voici la devise du jour. Le parfum de l'âme, c'est le souvenir de la campagne d'Arnaud Montebourg.
Oh,
Juliette Arnaud, bonjour.
Bonjour Charline.
Qui est Fernand Pouillon? Fernand Pouillon n'est pas candidat à la présidentielle. C'est l'auteur du roman que vous avez choisi de nous faire découvrir, intitulé « Les pierres sauvages ». Et donc, avec vous, nous découvrirons qui sont ces pierres sauvages.
Pierre ?
Présente !
Pierre ?
Présent !
Pierre ?
Évidemment, encore absent, celui-là.
Salut Guillaume Meurice.
Bonjour Charline.
Avec vous, chaque mercredi, c'est l'actualité expliquée aux pitchounes.
Oui, alors aujourd'hui, les enfants, j'ai énervé des gens, hein, puisque c'est mon métier. Voilà, je suis allé voir des gens des médias pour savoir si la presse était indépendante. Et on a assez bien résumé ma pensée.
Les gros méchants bien riches, là, hein, et puis de l'autre, tous ceux qui en souffrent, quoi. Bon, c'est peut-être un petit peu plus nuancé, non?
Pourquoi faire? Pourquoi
a dit. Et la Jupi Masterclass de cinéma vous est offerte par une comédienne et metteuse en scène, meilleur espoir féminin des invités qu'on a adoré recevoir, Laetitia Doge, bonjour.
Ah bonjour, ça me fait plaisir parce que vous étiez malade en plus, vous, ce jour-là, Charles.
C'est vrai, quand
oui.
Je vous a reçu.
Guillaume n'était pas là.
Oui, j'étais pas là.
Guidré non plus.
Oui, il y avait que Alex, donc c'était pas une vraie émission.
Eh bien,
oui,
j'étais là, pardon.
L'équipe.
Vous pourrez réécouter l'émission en podcast, en spray. Mais nous sommes tous là pour vous entourer aujourd'hui. Vous partagerez avec nos auditeurs votre regard sur Ravi Jacob.
Alors ça, c'est vraiment de l'humour juif. Marie et moi, on adore. Hein.
Nous sommes fans de Louis de Funès.
Et à mes côtés aujourd'hui, Alex Vizorek.
Bonjour, Charline Vanhoenacker. Moi, j'étais là quand Laetitia Doge est venue, bien sûr. Mais... Et elle est contente de revenir. Vous avez vu, c'est bien la première. Allez, je vous présente le reste du Girls Band de la journée, évidemment. Tout d'abord, celle dont toute la francophonie a appris récemment qu'elle avait accouché en 95. C'est Laurence Bibeau.
Oui.
Oui, bah oui, oui, je suis désolé. Parce que vous ne les faites pas.
Non, je ne m'étale pas.
Non, de quoi allez-vous nous parler?
Eh bien, écoutez, gros morceau dans petit extrait.
Très bien.
Ça vous donne envie?
Oui, bah, vous, chaque fois. Celle qui va très bien et est très heureuse, même si ça ne se ressent pas dans toutes ses chansons, c'est Guédré, bonjour.
Et bonjour.
Bonjour, de quoi allez-vous nous chanter?
Eh bien, puisque les enfants vont bientôt connaître la joie des fêtes de Noël,
oui,
des repas de famille, je vais leur chanter une chanson sur les vieux qui meurent.
Très bien.
C'est bien ça.
Oui.
Et enfin, celle qui, dans ses chroniques, entre deux morceaux de violon virtuose, joue du pipeau en nous expliquant des trucs plutôt douteux, c'est Marina Chiche. Bonjour.
C'est gratuit.
Oui,
ça,
oui, c'est vrai. Par la maison.
Alors, je vais vous proposer un tuto de violon et un tuto de météo hivernale.
Très bien. Ajoutez à cela un journal impec, des exercices issus de notre ludothèque, un dessin dont on s'emballait. Et oui, bah si, si, oui, même bah, vous, vous le savez. Et vous obtenez la dernière émission avant la dernière soirée en discothèque.
Ah, oui,
ah, oui. Oh. Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupiter.
Non, par Jupiclass.
Là, vous me rappelez un truc, ça,
c'est ce soir,
ça bouleverse mon quotidien, c'est vrai.
Le dernier jour du disco, c'est ce soir.
Nous sommes en compagnie donc de Laetitia Doche, qui viendrait faire le Jupi Masterclass à la fin de l'émission. Vous êtes comédienne, metteuse en scène. Vous avez été nommée au César du meilleur espoir féminin pour Jeune femme, de Léonore Serrail, notamment. Et vous avez récemment incarné Annie Ernaux dans Passion simple, film de Daniel Arbide, qui est sorti cet été au cinéma, à la mi-août, et qui sort en DVD actuellement.
C'est vrai, la semaine d'avant.
La semaine dernière. Et ça, c'est une bonne idée. C'est sur les plateformes, les DVD, etc. pour voir ou revoir Passion simple, car ce film est sorti pile au moment du pass sanitaire en plein été.
Oui, il y a beaucoup de gens dans les Cévennes en Ardèche et moins aller voir Passion simple. C'est bon, se rattraper, il fait froid.
Oui, donc ça a un petit peu ralenti la progression du film, on va dire, de la courbe.
Oui.
En tout cas, il est en DVD sur les plateformes. Laetitia Doche, on va vous voir au cinéma aussi à la rentrée, hein, c'est-à-dire en 2022. Il y a deux films, Ils sont vivants de Jérémy El Khaïm et Irréductible de Jérôme Commandeur. Mais en attendant, que fait la comédienne ou la metteuse en scène?
Elle a écrit un film et depuis une semaine, je fais des castings de chiens, en fait, parce que le personnage principal, c'est autour du statut de l'animal et le personnage principal, c'est un chien. Il faut que je trouve le bon chien, le bon duo dresseur chien. Donc, je suis chien.
Mais comment est-ce qu'on fait passer un casting à un chien? Qu'est-ce qu'il a comme réplique?
Non, il faut lui faire des choses. Est-ce qu'il tient bien sur la bibliothèque? Est-ce qu'il a l'air bien menaçant? Est-ce qu'il a l'air très gentil? Et puis, c'est surtout un test avec le dresseur. Comment est-ce qu'il travaille avec lui? Qu'est-ce qu'il arrive à faire? Qu'est-ce qu'il a envie d'investir aussi dans le travail? Puis, il y a plein de trucs à imaginer.
D'accord. Ce sera donc un long métrage que vous allez réaliser.
Et oui,
un chien.
Non, mais ça lui fait pas peur. Elle a joué avec un cheval.
Oui, c'est vrai.
Elle a joué un two-man show avec un cheval.
C'est vrai. Alors, après une petite pause Covid, isolement, série Netflix.
Oui,
bah c'est vous, oui.
C'est moi. Je vous suis reconnue.
Oui, parce qu'il y en a peu.
Qu'est-ce que vous avez regardé sur Netflix? Il y avait un bon docu.
Cinq fois.
Avec vous dedans.
Et vous voilà de retour avec le Thalys qui a pour terminus France Inter depuis une petite décennie déjà. Et vous en faites partie, Laurence Bibot.
Donc, je vous disais cette semaine, gros morceau, la voix du roi des Belges. Amis français, nous vivons sous un régime monarchique. Ce qui, j'imagine chez toi, doit susciter des sentiments qui vont de l'indifférence au mépris, en passant peut-être par de la fierté quand tu vois la tête d'une autre d'avoir fait couper la tête du tien. Mais cela dit, ok, tu as un président, mais qui vit aussi dans un palais. Et dont un des surnoms est quand même Jupiter, et qui se prend beaucoup plus pour un roi, on en conviendra tous ici, que notre roi Flipke ne se prend pour un président. Je veux dire, à côté des ors et des fastes de l'Élysée, la royauté belge, c'est une franchise. La maison mère, c'est chez vous. Nous sommes des amateurs. Alors attention, j'ai un total respect pour notre famille royale, mais reconnaissons que question charisme et cérémonial, ça ne déborde pas. Voilà. Les deux Belgiques, puisque c'est leur nom de famille. Ils s'appellent vraiment les deux Belgiques. Eh bien, ce ne sont pas les Windsor, à laquelle on n'est pas dans The Crown. Vous voyez, la série. D'ailleurs, à ce propos, je n'ai jamais vu le roi porter une couronne. Chez nous, le roi défile avec un képi sur la tête et la reine avec un brushing sur sa tête. Alors, chez nous, ce qui est sacré, je vous le dis tout de suite, ce sont les brushings royaux, qu'on aimerait d'ailleurs, comme la Grand Place et la pêche à la crevette, faire reconnaître comme patrimoine universel à l'UNESCO. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la voix du roi?
Rien.
Non, mais vraiment rien. Et c'est normal. Non, mais c'est normal, c'est parce que c'est ce qu'on attend d'elle. Le roi ne décide de rien, il n'a qu'un pouvoir symbolique. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est pas très, très, très utile. Parce que c'est un symbole d'unification. Et dans un pays où pour représenter dans les instances internationales, Et surtout pour ne vexer ni les Wallons, ni les Bruxellois, ni les Flamands, on finit toujours par envoyer un schtroumpf. Eh bien, je vous jure qu'on est bien content d'avoir un roi ou peut-être bientôt une reine sous la main. Alors, et à propos de reine, justement, c'est de ça dont il va être question dans cet extrait, puisque le contexte, je vous le dis, on est à la fin du discours d'abdication d'Albert II au profit de son fils Philippe, notre roi actuel. Très rapidement, un peu de généalogie. Philippe est le fils d'Albert II. Albert II, le fils de Léopold III. Léopold III, le fils d'Albert Ier. Albert Ier, le fils de Léopold II. Mais allez, c'est facile. Si tu retiens les prénoms Albert et Léopold, tu maîtrises déjà 98% de l'histoire des rois de Belgique. Nous sommes le 3 juillet 2013. Albert, qui est un grand émotif, improvise la fin de son discours. Et pour un émotif, l'impro, ça n'est peut-être pas la bonne piste. Il s'adresse à sa femme, la reine des Belges, Paola. Oui, eh bien, chez nous, clairement, tu peux porter un prénom pas belge et être la reine des Belges. Je dois dire que pour ça, on est assez open. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, pour une raison que j'ignore, ce moment qui est solennel, ça ne fonctionne pas. La solennité, c'est comme ça qu'on dit solennité ?
Oui.
C'est pas notre truc, et je sais pas pourquoi, mais quand on doit être sérieux, il y en a toujours un qui trébuche à la fin. Et pourtant, je vous jure qu'on marche pas vite. Et on ne parle pas vite non plus. Le débit de parole d'Albert II, c'est un peu comme quand on dit sur la route, je pense, je sais pas si ça va vous parler, vous savez, quand on laisse passer les voitures, on dit un crocodile, deux crocodiles. Voilà l'équivalent des lignes blanches. Oui. Chez nous, c'est crocodile, un héritage, comme le fait rappeler Alex du Congo, sans doute. Donc, ici, Albert, dans ses phrases, il laisse passer toute la famille crocodile, monsieur, madame et les enfants. Mais ce qu'il y a de plus surprenant et peut-être de plus savoureux, hein, je vais vers Alex et vers Charline qui connaissent déjà la fin, ce sont les deux mots qui clôturent ce discours. Attention, c'est court mais savoureux.
Quant à la reine Paola,
un crocodile, deux crocodiles, trois crocodiles,
qui m'a constamment soutenu dans ma tâche. Durant ces 20 années, je voudrais simplement lui dire merci et un gros kiss.
C'est pas beau.
Chez vous, ça suffit. Voilà. Ah ben ça me fait plaisir parce que je savais pas si je devais conclure, mais je vois que les mains, voilà, les yeux dans les mains, des regards consternés.
C'est mignon.
Il y en a même une qui rougit, donc voilà.
Ah non, non,
voilà.
C'est beau, c'est beau.
Chez nous, le roi fait des gros kiss à la reine.
Merci Laurence Bibot, merci, on a envie de vous faire un gros kiss aussi.
Oui, c'est vrai, mais on peut pas.
Non, mais en Belgique, on dit aussi une grosse baise.
Oui,
oh, et ça,
oui,
ça,
ça aurait été mieux.
Et ça aurait été très 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 bien, je pense.
Allez.
Pas facile, gagner l'argent français, bosser, bosser, pas facile. Gagne l'argent français. Gagne l'argent français, bosser, bosser, pas facile, gagne l'argent.
l'argent français par Mamani Keïta. Quelle provocation! Et ça sur le service public, sur France Inter, où vous écoutez par Jupy Class. Je me suis emballée.
Oui, on va passer à la formation. Oui, les gens aiment ça, les gens aiment ça.
On ne doit pas triturer la langue française, ça n'est bon à aucun titre, y compris pour le sujet essentiel de mon point de vue, qui est l'apprentissage des savoirs fondamentaux de la part de nos élèves.
Le journal de presque 17h17.
Je courus très vite, Milouen coura.
C'est pas coura, couru. Mais c'est il courut.
Oui, bien sûr, évidemment.
Et on commence par les titres.
En déplacement à Vichy, Emmanuel Macron a déclaré « Gardons-nous de manipuler, d'agiter et de revoir l'histoire ».
Oui, et impossible de savoir s'il s'agit d'un tacle à Éric Zemmour ou d'une autocritique sur la foi où lui-même avait rendu hommage au maréchal Pétain.
Le président a dit croire profondément que les Français pourront passer les fêtes de fin d'année sereines.
Oui, sereine, ça dépend des familles, parce que lancer un petit débat sur le pronom Yel et on va voir si elle va être sereine la soirée.
Et des brèves.
Et Charline, je crois profondément que les brèves se dérouleront sereinement en cette fin de journal.
Pas pour tout le monde, hein, mais bon.
Alors, moi j'avais compris qu'on arrêtait les brèves hier, mais d'accord.
Ah oui, il y a eu une rumeur, mais okay. Non. Mais surtout, vous n'allez pas être déçus. On commence par la politique.
Invité de Laurence Ferrari ce matin sur CNews, Christian Estrosi a déclaré:
il y a un président qui pendant 5 ans a fait le job.
Et voilà. Et donc Emmanuel Macron continue à faire le job pendant qu'Estrosi continue à faire le blowjob.
Arnaud Montebourg.
Faut être bilingue.
Oui,
être
bilingue.
Ouais, enfin.
Ça passe à l'international.
Ça veut dire quoi?
Passons à l'international.
Allez,
plutôt, tout ce qui est international.
D'accord. Ah, c'est un truc de cul.
Oui.
Ah,
mais oui,
c'est sucer des grosses bites.
Voilà. D'accord, merci. Bah, toujours compté sur Guédré pour ça. Évidemment.
C'est la traduction exacte.
C'est par Jupy Class toujours.
Maintenant, je revois la blague. Maintenant, je me la refais. Arnaud Montebourg a appelé à l'unification de la gauche.
Et oui, et s'il faut résumer cette déclaration en 3 lettres, eh bien on hésiterait entre LOL ou MDR.
Et puis sachez que le grand prix de l'humour politique a été décerné.
Marlène Schiappa, pour la petite phrase utilisée pour défendre son projet de loi visant à lutter contre la polygamie qui était...
On ne va pas s'interdire les plans à trois.
Et ouais, mais oui, mais non, mais moi je trouve c'est, ouais, c'est n'importe quoi.
Bah, parce que... C'est un petit peu drôle quand même.
Oui, bien sûr, c'est drôle, mais c'est tellement drôle. Quand on remet un prix du mois à Marlène Schiappa, c'est pas sur une phrase, c'est pour l'ensemble de son œuvre qu'il faut lui remettre, moi je pense.
À Lyon, partir d'aujourd'hui, la fête des Lumières illumine de nouveau la ville.
Et oui, c'est toujours un bel événement à Lyon de voir des Lumières quand on sait que c'est la ville de Laurent Wauquiez.
Puis en économie, NFT, le cours de Tezos bondit de 37% après qu'Ubisoft a annoncé le lancement d'Ubisoft Quartz. Attendez Alex, pourquoi vous me faites dire ça en fait?
Je me suis dit, si Valérie Pécresse peut s'exprimer sur la vie quotidienne du français moyen, vous aussi, vous pouvez vous lancer dans quelque chose, vous ne pigez pas.
En effet, c'est vrai. Médecine maintenant, le Viagra pourrait être utilisé pour traiter Alzheimer selon des scientifiques américains.
Et oui, une découverte à peu près contre-intuitive, parce qu'en général, quand on a une érection de 4 heures, on a tendance à oublier tout le reste. Mais...
Pourtant, il a été démontré que les utilisateurs de Viagra ont près de 70% moins de chances de développer la maladie d'Alzheimer.
Et oui, et moi, je le savais, parce que oui, je l'ai lu un jour dans un Science et Vie. C'était celui d'octobre 2017. Parce que moi, j'ai une très bonne mémoire. Bonne mémoire, si vous voyez ce que je veux dire.
Je ne vois que trop bien.
Voilà.
Culture.
Oui.
Section d'Assaut a annoncé son retour avec un nouvel album pour 2022.
Ouais, mais là, peut-être il faudrait le postposer en 23.
Pourquoi?
Ben même moi, quand j'écoute Section d'Assaut, j'ai envie de voter Zemmour. Donc,
Des brèves.
Des brèves au Pays Basque. Au milieu d'un bois, une promeneuse découvre un squelette sur un banc de musculation. Quelqu'un qui attendait Guillaume Meurice pour la séance de gainage.
Et la dernière,
c'est plus qu'une brève, c'est un hommage. On en a parlé du grand Jojo qui nous a quitté la semaine dernière. Ce matin, c'était les funérailles à Bruxelles. Et l'un des titres les plus célèbres du grand Jojo, c'était Mexico. Une chanson de soutien au Diable Rouge pour la Coupe du Monde en 86.
Mm-hmm. Et viva Mexico! Enlevez les sombreros! Les petits belges sont à Mexico! Olé, 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 olé!
C'est pour vous mettre dedans. Parce que ce matin,
ça va bien, non ?
Très belle cérémonie, tout le monde en larmes parce qu'on perd le grand Jojo qui nous quitte. Le cercueil est au milieu de l'église et on lance un Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Alléluia,
alléluia. Oh, génial. Tous ensemble.
C'est magique.
Very joli.
C'est magique.
Véridique.
Ah, j'ai la nostalgie du pays. J'ai le mal du pays. Heureusement, il y a Laurence Bibeau, il y a Alex Vizorek. Alors, Juliette Arnaud,
Vous avez choisi de... Là, la transition n'est pas évidente. Hein, ça,
si, vous allez voir.
Ah, c'est vrai ?
Si, si.
Ah, mais oui,
voir,
c'est juste.
Ça va glisser.
Allez,
c'est vrai,
allez,
ça va...
Juliette.
Ça va glisser.
Allez, Juliette.
Non, alors, taisez-vous bien, en fait, Maurice.
Vous avez choisi de lire et de partager les pierres sauvages de Fernand Pouillon.
Voilà, Fernand Pouillon qui a dessiné beaucoup de constructions et mené beaucoup de chantiers en France, en Algérie, en Iran. Le plus souvent des logements collectifs. Quand je dis beaucoup, c'est beaucoup. Hein. 2 millions de mètres carrés. Et ces 2 millions de mètres carrés, il les a fait en gros pendant la deuxième moitié du XXe siècle. Et puis il a écrit donc un roman qui raconte la construction d'un bâtiment dont, qu'il a admiré follement, mais qu'il n'a pas dessiné, qui est l'abbaye du Thoronet. Dans le Var, un bâtiment qui appartient à un siècle qu'il n'a pas connu, Fernand Pouillon, puisque c'est le XIIe siècle. Ce roman, publié en 1964, est constamment réédité depuis, et c'est aussi pour ça qu'il est là maintenant avec nous, mais c'est surtout parce qu'il contient, selon la Juju Academy, qui a pour principale occupation, je vous le rappelle, de répertorier les livres qui contiennent les plus belles déclarations d'amour du monde et de l'éternité, une sublime déclaration d'amour. En guise de quoi, donc, je vous apporte Les Pierres Sauvages, qui est un roman qui est le journal de bord d'un moine. Tout ce qu'il y a de plus chaste. Est-ce que, tout simplement, la Juju Academy n'aurait pas perdu une roue ? Alors, auditrices et auditeurs de peu de foi, ayez surtout un petit peu de patience. Il s'agit effectivement du journal de bord, écrit donc à la première personne du singulier, en l'an de grâce 1161, journal sur une période qui dure 9 mois, le journal donc d'un moine bâtisseur, Guillaume Batz, moine appartenant à l'ordre des cisterciens, bâtisseur d'abbaye, mais qui, à force de construire, les années passant, bah, il est devenu plus maçon que moine. Et par exemple, quand il réorganise un chantier, la première chose qu'il fait, c'est, comme tous les maîtres de chantier, il cherche à gagner du temps. Et lui, il fait sauter le temps de la prière en disant qu'il prie en travaillant. Alors ça, je m'y connais pas beaucoup en choses sacrées, mais définitivement, le gars est plus maçon que guide religieux. Bref, au début du mois de mars, Guillaume Batz arrive sur ce nouveau chantier, et il arrive après avoir marché des semaines en hiver, le gel alourdissant le lourd tissu de sa coule, c'est le vêtement religieux, vous savez, à capuche, large manche, et il arrive sur les lieux de son nouveau chantier, c'est la future abbaye du Thoronet. Donc on est dans l'arrière-pays varois, au milieu d'à peu près nulle part, au mois de mars, donc c'est encore bien l'hiver, à une demi-journée de marche de toute habitation. Et puis tout de suite, en fait, il est déjà très très mal parce qu'il vient d'avoir une attaque sur la route par des bandits pendant laquelle il a été roué de coups et il est salement blessé à une jambe. Bref, de quoi avoir le seum comme nouvel axe idéologique. Seulement voilà, Guillaume Batz, en arrivant ici, il revient sur au pays de son enfance, parce que c'est un méridional, Guillaume Batz, comme Fernand Pouillon l'était. Quand les autres moines ou compagnons ne croient pas à la beauté des cailloux qu'ils trouvent dans le coin, lui, le moine bâtisseur, dit, et je cite, « Je suis déjà ami avec cette roche qui refuse toute complication, qui interdit toute sculpture. Il aime cette pierre et elle le lui rend. » Et c'est là, c'est précisément là que Fernand Pouillon propose dans ce livre d'hommes soumis à la loi cistercienne qui est quand même chasteté, pauvreté, obéissance, une déclaration d'amour pour une matière, certes, et c'est cette pierre. Mais faites marcher votre cerveau, extrapolez, laissez-vous faire, écoutez plutôt. Il dit « Cette pierre, je l'aime davantage pour ses défauts, pour sa défense sauvage, pour ses ruses à nous échapper. Elle est pour moi comme un loup noble et courageux au flanc creux, couvert de blessures, de morsures et de coups. Voilà pourquoi je ne veux pas l'engluer de chaud, je veux lui laisser encore un peu de liberté, sinon elle ne vivrait pas. » Mais dans quelles circonstances un écrivain, un architecte peut-il suffisamment penser à la liberté des pierres sauvages pour parvenir à rentrer dans la tête d'un moine bâtisseur mort il y a plus de 8 siècles ? Oh, j'ai dit 8. Et les circonstances sont encore plus mystérieuses quand on sait que Fernand Pouillon était, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et du moment de la Reconstruction, un architecte ultra célèbre et reconnu, riche, flamboyant et provoquant. Le mystère se dissipe un peu lorsqu'on apprend qu'en 1964, qui est la date de l'écriture de ce roman, Fernand Pouillon était en prison. Une prison dont il s'était d'abord évadé et dans laquelle il a ensuite passé 3 années. Pour quelle raison ? La semaine prochaine. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, c'est un auteur qui était un peu tombé dans l'oubli, Fernand Pouillon ?
L'auteur, grâce au lecteur, non, pas tant que ça, mais l'architecte, j'ai demandé à partout dans les couloirs de France Inter qui connaissait encore Fernand Pouillon, personne, et je trouve ça débile. Tout le vieux port de Marseille, c'est Fernand Pouillon, par exemple et au hasard.
Juliette Arnaud, merci. Laetitia Doche avec nous, qui prépare sa Jupy Masterclass. Est-ce que vous avez un peu le trac ou pas?
Oui, j'espère que j'ai... Franchement, j'espère que je vais vous décevoir. Je crois que c'est... Je vous écoute, je trouve ça tellement beau.
Mais vous avez déjà fait de la radio, Laetitia, sur France Culture. Vous aviez un concept très spécial. Vous pouvez nous le résumer ?
Ouais, c'était Radio Arbre. C'était une libre antenne pour les arbres. C'est un peu comme Macha Béranger pour les gens. Ouais. C'était pour les arbres. Les arbres venaient... Pardon, c'était des gens qui jouaient les arbres, bien sûr. Ouais. Qui venaient parler de leurs problèmes. Et ça permettait de parler d'écologie, parler aussi de botanique, de comprendre comment les arbres fonctionnent et de choses qui nous inquiètent plus, d'une manière un peu ludique, quoi.
Et vous vous mettiez un petit peu dans la peau, enfin dans l'écorce d'un arbre, alors.
Oui, j'étais un arbre qui sait écouter, qui écoute les voix dans la nuit.
Bon, écoute, on peut réécouter, hein, c'est disponible en podcast, j'ai vérifié, sur France Culture.
Ah oui,
bien sûr. Rappelez-nous le titre, Laetitia.
Radio Arbre.
Radio Arbre, sur France Culture. Oui, ça se retient.
C'est pas compliqué, hein.
Pas du tout. On poursuit en chanson, Alex ?
Mais oui, passons à la recrue la plus pertinente de Jupy Classe, puisque les enfants l'aiment, et on ne sait pas si l'inverse est vrai. Guédré, bonjour.
Je les adore. Ah. Je veux juste les éduquer un peu, c'est tout. Quand ton papy va décéder, tu verras sûrement de grosses larmes couler sur les joues de tes parents. Tu seras triste toi aussi, mais moins qu'eux, et c'est normal. C'est pas toi qui va payer la cérémonie, le cercueil et la pierre tombale. C'est pas toi qui va ranger la part de Pépé et découvrir dans son tiroir à chaussettes qu'il aimait les animaux bien plus qu'on croyait. Enfin, d'après la jaquette des cassettes, les vieux qui meurent, c'est triste. Y faire face, c'est pas facile, sauf pour les fleuristes et les nécrophiles. Quand on meurt, ça donne du souci aux gens. La moindre des choses, c'est de ranger avant. Quand ton papy sera mort, ta mamie va pleurer, assurément, mais moins longtemps et moins fort que tes parents. Car si ton grand-père n'est plus là, ils savent bien, les malheureux, qu'il va falloir prendre la vieille chez soi. Et une vieille chez soi, personne n'en veut. Ça sent le lait caillé et ça pète dans le salon. Il y a de quoi préférer un vieux mort qu'un vieux dans sa maison. Les vieux qui meurent, c'est triste. Y faire face, c'est pas facile, sauf pour les fleuristes et les nécrophiles. Quand on meurt, ça donne du souci aux gens. Mais quand on tarde à mourir, ça en donne tout autant. Petit, si tu te mets à pleurer en écoutant cette chanson, c'est rien, t'es juste en train de réaliser ce qui t'attend avec tes darons. Mais passer par là, c'est normal. Et à tout le monde, ça prend la tête de se retrouver au tribunal pour savoir qui va hériter des dettes. Si tu veux éviter ces désagréments, ces galères de l'existence, meurs avant tes parents ou fais-toi abandonner à la naissance. Les vieux qui meurent, c'est triste. Y faire face, c'est pas facile, sauf pour les fleuristes et les nécrophiles. Quand on meurt, ça donne du souci aux gens. Il vaut mieux s'arranger de mourir avant.
C'était Guédré.
Merci. C'est un de vos thèmes favoris. Je me rappelle sur un de vos albums, votre chanson Meurs, Meurs, Meurs.
Oui.
Oui. J'aime bien aussi celle-là.
Oui, oui, oui. J'aime bien la mort.
Mais oui. Nous aussi, quand vous la chantez. On préfère quand vous la chantez. Et Guédré est en tournante dans toute la France.
Oui. Ah, bien sûr. Oui, oui.
Une belle tournante.
Même si on est une femme, on peut venir.
Ah, bah, oui, surtout. Guédré, surtout.
Ah, bah, oh, oui, bien sûr.
Vous n'êtes que les enfants, hein, d'après ce que j'ai compris.
Ah, bah, oui, les enfants. Alors, c'est mieux des enfants sourds par rapport à l'aide sociale à l'enfance.
Oui, oui.
Mais sinon, si vous préférez qu'on vienne les chercher à la fin du spectacle pour les emmener à la tasse, vous pouvez venir.
Merci. Voilà.
Venez vous rasseoir près de nous, Guy Edret. Alex, qui a-t-on entendu? Qui allons-nous entendre?
En plus de Guy Edret, on a entendu Laurence Bibot et Juliette Arnaud. On attend encore la phalange sérieuse des chroniqueuses, Marina Chiche et Laetitia Doche. Mais avant cela, celui qui a récemment décroché ses posters d'Edith Cresson pour les remplacer par des nouveaux de Valérie Pécresse.
Ah oui,
c'est Guillaume Meurice,
c'est
bien
vrai,
sûr.
C'est vrai, cœur avec, avec des brochings. Alors, les pitchounes, dans ce nouveau Parjupica, je me suis posé une question, figurez-vous. Qu'est-ce qu'un journaliste?
Ah,
parce que ça, c'est pas évident. C'est un mot qui désigne à la fois un reporter de guerre, un présentateur de talk show, ou un mec qui rédige les brèves qui font la joie évidemment. Du banquier d'Alex Vizorel. Ça peut désigner plein de trucs, quoi. Ça peut désigner un paillasson, puisque je vous rappelle que Christophe Barbier est journaliste. En tout cas, il est considéré comme tel. Donc c'est un mot qui est très 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 vaste et un petit peu compliqué. Alors je suis allé ce matin au salon La Presse au Futur, parce qu'on parlait de presse, et du futur. Ah, je me suis dit, c'est hyper bien foutu. Presse et futur, c'est l'inverse de Jean-Pierre Alcabache. Mais c'est complètement l'opposé, vous voyez. Alors, on commence avec un premier intervenant. Quel est son ou sa journaliste préférée, tiens.
Comment elle s'appelle? Catherine Pic.
Catherine Pic, ouais, je connais pas Catherine Pic.
Pas Catherine Pic, c'est pas Catherine Pic. Comment elle s'appelle sur la 2, celle qui présente le journal.
Anne-Sophie Lapic.
Anne-Sophie Lapic, ouais. Là, c'est visuel, en fait.
Voilà.
Oh ah,
voilà, 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 voilà. Ah,
c'est important, c'est important.
C'est important à la télévision. Nous, on a ce qu'on appelle des physiques de radio. Hein, d'ailleurs, on nous a fait remettre le masque, mais on sent bien que c'est pas pour le Covid. À la télé, ils n'ont pas le masque. Hein. Ils disent, non, c'est filmé, remettez-le. Voilà. Parce que, bah, on est moche. Alors, les enfants, puisqu'on s'interroge sur le journalisme, parlons de son... Calmez-vous. Ne lancez pas des objets contondants, Juliette. Parlons de l'indépendance des journalistes à l'heure où les groupes de presse sont essentiellement détenus par des milliardaires. Est-ce qu'on est inquiet?
Absolument pas.
Non, pas du tout.
Non, pas du tout. Ça, c'est le... c'est... Oui, de toute façon, il y a des regroupements qui se font. En fait.
Mais côté liberté de la presse, est-ce que ça pose pas des problèmes?
Je pense pas.
Par exemple, le fait qu'un vendeur d'armes soit propriétaire d'un groupe de presse.
Non, moi, j'ai appelé ça de la diversification.
Je comprends un peu de tout, quoi.
Ouais.
Voilà, on appelle ça plutôt de la diversification, voilà, des articles, de la vente d'avions de chasse. Voilà. Il ne faut pas mettre tous ces euros dans le même panier. Alors, moi, c'est jeu de mots et puis la bouloche. Voilà, c'est ma diversification. J'avais un projet chouquette et lance-roquette, mais ça a un petit peu capoté parce que je trouvais que ça rimait bien. Alors, chacun fait ce qu'il veut, les enfants, il n'y a pas de problème. C'est ça que veulent dire les pros du secteur. Alors, pareil pour cet autre monsieur.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Est-ce qu'il n'y a pas un problème de conflit d'intérêts?
Vous voulez supprimer les armes, c'est ça?
Pas forcément, je pose la question.
Faut supprimer les voitures parce que ça fait des morts sur la route?
Oui, alors ça c'est toujours un bon argument, les enfants, puisqu'on rappelle que la France a encore vendu des milliards d'euros de Twingo à l'Arabie Saoudite pour provoquer des accidents de voiture au Yémen. Beaucoup de refus prioritaires à droite, ça personne ne le dit, on parle que des contrats d'armement. Bon, mais ça c'est pas le sujet, le sujet c'est vraiment l'indépendance de la presse et le fait que quand on possède un journal, on écrit ce qu'on veut, hein, finalement.
Jean Jaurès, quand il a lancé l'Humanité au début du 20e siècle, il écrivait ce qu'il voulait dans son journal.
Mais est-ce que Jean Jaurès, par ailleurs, il vendait des armes? Est-ce que Jean Jaurès, il faisait du commerce avec les pauvres africains?
Ouais, tout dépend ce que chacun a à vendre.
C'est un truc de vente. Hein. Alors, Jean Jaurès, il vendait des t-shirts non à la guerre. Donc voilà, il faisait la promotion du pacifisme. Hein. Voilà, c'est un business comme un autre. Hein. Jeannot, on sait qu'il est devenu riche comme ça. Alors, aujourd'hui, c'est pareil avec le groupe Dassault, Drahi, voilà, qui d'ailleurs ne sont pas les mêmes.
Non, c'est pas les mêmes. Dassault, Drahi, c'est pas les mêmes. Je suis désolé, c'est pas les mêmes.
C'est quoi les différences idéologiques entre Dassault et Drahi?
Ah mais moi, je suis pas dans la tête de ces gens-là. Je vous dis simplement que...
Est-ce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts?
Faudrait leur demander.
Alors, je les ai appelés, c'est des amis, c'est la grande famille des médias, comme on dit. Alors, du côté du groupe Dassault, on m'a dit, nous, notre intérêt, c'est plutôt de faire de la thune. Et du côté de Drahi, on m'a dit, alors non, nous, c'est la moulaga. Donc, vous voyez, on est vraiment sur deux intérêts différents, les enfants. On n'est pas face au même libéralisme, même si, bien sûr, les principaux groupes de presse appartiennent aux financiers. Ça, c'est sûr.
C'est vrai, les principaux groupes de presse appartiennent à la finance. Vivendi, qui a d'un côté racheté de la presse, c'est-à-dire Prisma Media.
Vivendi, c'est Bolloré?
Vivendi, c'est Bolloré.
Est-ce que c'est bon signe, ça, que Bolloré rachète autant de...
Ah ben, c'est plutôt bon signe, oui.
Est-ce que c'est un bon signe pour la liberté de la presse?
Écoutez, jusqu'à maintenant, oui, parce que je dirais que les rédactions se plaignent pas de trop.
Non, pas trop. Alors, bon, je les ai appelés aussi les anciens d'ITélé, ils m'ont dit non, pour nous, c'est cool, il n'y a pas de soucis. Et ceux d'Europe 1 m'ont dit, au moins maintenant, il y a du schnaps à la cantine. Alors, du coup, voilà, ils se plaignent pas trop, il n'y a pas de soucis, les enfants. Les journalistes sont libres. D'ailleurs, terminons là où on a commencé quand même. Qu'est-ce qu'un bon journaliste?
C'est quelqu'un qui cherche, qui réfléchit, qui est objectif.
Votre journaliste préféré, ça serait qui?
Ah, c'est peut-être Gueule d'amour, c'est Laurent Delahousse.
Ah, Laurent Delahousse, il a tout ça?
Ah, je trouve qu'il est vraiment très très bon. Puis il a le sens de l'interview.
Est-ce qu'il n'est pas un peu complaisant parfois?
Peut-être.
Oui, peut-être, peut-être. Voilà, bon, en même temps, c'est la diversité, hein, c'est ça. On pose des questions et aussi, on fait des massages du périnée avec la langue au président de la République. Les enfants, c'est ça. Voilà, c'est par Jupiclas, on apprend des choses. Là, on est vraiment dans l'héritage d'Albert Londres. Je dirais, on porte la plume dans la plaie. Sauf que la vraie plaie aujourd'hui, c'est les milliardaires qui s'achètent la presse, dis donc.
Merci, mais Guillaume Meurice.
Oui, oui.
Rendez-nous Robert Damias, Charles Villeneuve.
Les vrais,
mon
les
Dieu,
purs.
Mais oui. Merci, Guillaume Meurice. Alors, c'est un vrai par Jupiclas parce que vers 16h, on peut entendre crier dans le bureau « Guillaume, Alex, vous avez fait vos exercices ?»
Oui, exactement.
Ah bon, alors très bien.
Eh ben, on l'a fait.
C'est vrai, on les a fait.
Eh bien, on l'attendait avec impatience, ce fameux classement 2021 des émojis les plus utilisés.
Eh bien, ah oui, c'est vrai qu'on l'attendait.
Sorti, et c'est encore le visage qui pleure de rire.
C'est pas vrai.
Oui, évidemment, les gens répondent à mes tweets, je pense. Alors, parmi les infos suivantes sur les émojis, lesquels sont vrais ? Chez Jean-Luc Lahaye, l'émoji le plus utilisé est l'émoji bonbon. À égalité avec aubergine. Alors, c'est possible, ça peut être une œuvre. En Belgique, le ballon avec une coupe du...
Non.
Alors, non, parce que là, il y a dû avoir un souci dans l'exercice. Passons à la réponse.
Ah bon, d'accord.
Les émoticônes ont été créés par un type radin qui trouvait qu'envoyer des SMS à sa copine coûtait trop cher, alors il a remplacé les mots par des symboles. Mm-hmm. Et réponse D, désormais, les iPhones suggèrent directement des émojis quand vous écrivez un mot. Ouais. Et j'ai testé, eh ben, Juliette Arnaud, c'est le verre de vin rouge.
Oui,
si.
Je ne bois jamais de vin rouge. Ah,
donc c'est vrai, je bois que du blanc. Vrai. Alors, mon exercice devrait vous permettre de répondre à la question que tout le monde se pose depuis plusieurs semaines. Mais où est Arnaud Montebourg? Alors, quelle est l'hypothèse la plus crédible? Petit A, comme les abeilles, il hiberne entre mi-octobre et avril. Petit B, il a décidé d'être le frondeur de sa propre campagne électorale présidentielle. Petit C, il est roulé en boule sous la table du plateau d'RTL, plateau sur lequel il s'est craché. Petit D, il prépare sa remontada. Guillaume.
Exercice. Valérie Pécresse est donc la candidate à la présidentielle pour les Républicains. Dans la liste suivante, qui a déjà été candidat LR? Réponse A, Jean-Pierre Elkabbach, 1912, était candidat à la présidentielle. Réponse B, Aurore Berger a été candidate LR.
Oula.
Ah, c'est pas facile, là. Réponse C, Nicolas Sarkozy, en 2017, qui a perdu au premier tour de la primaire LR. On s'en souvient, on l'appelle le Philippe Juvin de 2017. Et réponse D, le directeur du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis, qui a été pris d'une sorte de syndrome de Stockholm, mais à l'envers. Pas évident.
Merci Guillaume. Les énoncés, les corriger sur la page Facebook de l'émission, bien sûr, où vous pouvez aussi revoir les chroniques, et notamment celle qui va suivre, car on passe au petit conservatoire de Parjupiter. Dans la classe de musique, il y a une prof, violoniste, c'est Marina Chiche.
Eh bien, je suis ravie d'être parmi vous pour vous faire entendre une musique de saison, une musique hivernale. Je me sens un peu l'âme d'une Miss Météo aujourd'hui. Vague de froid annoncée sur France Inter. Couvrez-vous, des bourrasques de vent du Nord sont à prévoir. Écoutez. Ça jette un froid.
Ah mais ouais.
Est-ce que vous avez reconnu
Vivaldi?
Yes, oui, c'est le l'hiver. Premier solo de l'hiver, ah, des oui. Quatre saisons de Vivaldi, le compositeur et grand virtuose italien, surnommé le prêtre roux de Venise. Alors là, il y a les motifs qui tournent en rond, et de manière instable, ça souffle fort, on dirait une bourrasque d'un vent glacial. Et c'est pas moi qui le dis, en fait c'est Vivaldi. Il l'écrit même sur la partition. Alors l'œuvre est accompagnée de quatre sonnets attribués à Vivaldi lui-même qui décrivent le déroulement des saisons. Donc le texte précède la musique, mais les vers sont inscrits sur la partition comme des didascalies. Par exemple, au tout début du mouvement, il y a écrit « Tremblez violemment dans la neige étincelante ». Voilà comment ça sonne. Là, il utilise une technique qu'on appelle le tri. Le tri, c'est donc ce battement rapide sur deux notes voisines. Et si je veux rendre ça encore plus froid, encore plus glacial, je peux rapprocher l'archet du chevalet. Le chevalet, c'est le petit pont en bois sur lequel les cordes sont maintenues. Et en italien, on dit ça, on dit c'est un ponticello, un petit pont. Écoutez comment ça sonne. Ça se met presque à siffler. Donc là, on a froid, quoi, froid dans le dos. Ce que fait Vivaldi ici, c'est un figuralisme. C'est une musique descriptive qui figure, qui imite la nature. C'est aussi ce qu'on appelle une musique à programme. Alors là, c'est un programme poétique, climatique, presque écologique. Et à la différence des politiques, avec Vivaldi, on dit ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. Plus loin, pour prendre un autre exemple, il y a marqué « courir, taper des pieds à tout moment ». Et voilà comment ça sonne. Ouais, donc ça, là, on tape des pieds. Donc c'est vraiment une musique qui nous donne à voir, à entendre cette situation. Alors, avant d'être une œuvre la plus connue, la plus enregistrée de la musique classique, on l'a entendue partout, hein, dans les téléphones portables, dans les ascenseurs, à la radio, dans les pubs, eh ben, il a fallu attendre les années 1920 pour que cette œuvre soit reconnue, notamment par aussi un enregistrement en 1948. C'est une œuvre qui date de 1723. C'est imaginer qu'elle a vraiment traîné dans les placards pendant un long moment. Et aujourd'hui, je vous en propose une version qui a été recomposée par un compositeur qui s'appelle Max Richter, en 2012. Version minimaliste, avec une influence électro, des rythmes déstabilisés, des séquences répétées en boucle, et une sensation de basse renforcée, une section de basse renforcée, plus rock que baroque. L'hiver des quatre saisons de Vivaldi dans la version recomposée par Max Richter avec le violoniste Daniel Hope et l'orchestre de chambre du Concerthaus de Berlin. Finalement, on a beau dire qu'il n'y a plus de saison, avec un violon Vivaldi, on peut toujours faire la pluie et le beau temps.
Oh là là.
Marina Chiche, merci. Et merci à votre violon.
Oui.
Ça va filer direct dans ma playlist. C'était très, cool. très joli. Merci beaucoup. Il a un nom, votre violon, Marina?
Alors, oui, c'est un petit italien. Je l'appelle, il s'appelle Giuseppe.
D'accord. Voilà. Merci Marina et Giuseppe pour cette magnifique chronique.
Cheers.
Et c'est le moment...
Non, si vous permettez, parce que comme on a un peu de temps, c'est courrier des auditeurs.
Ah bon? Mais attendez, Alex, non. Ça, oui. Le courrier d'auditeur, c'est le vendredi.
Non, mais c'est parce qu'il y a un rapport avec l'actu. C'est Jordan, un fidèle auditeur qui nous écoute depuis longtemps et qui vous écrit ceci. Bonjour Charline, bonjour tout le monde. Petit courriel depuis la Nouvelle-Calédonie. Dans moins d'une semaine, nous serons face à un troisième et on l'espère dernier référendum d'autodétermination.
Non, c'est vrai. Ah oui, on est spécialiste.
Je suis inquiet parce qu'on n'a pas encore entendu de consignes de vote émanant de Patrick Bruel. Pourriez-vous l'inviter, lui et son slip, bon la petite vanne, afin de nous éclairer. Alors j'explique à ceux qui nous découvrent récemment.
Oui, je vois, en fait,
lors du premier référendum en 2018, pour ou contre l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, nous recevions Patrick Bruel. Et Charline, ce qu'elle fait, c'est qu'elle choisit sur le sujet avec une belle exigence et une belle bienveillance envers les invités. C'est dit, s'il y en a bien, qui est bien placé pour traiter le sujet, c'est bien patoche.
Voilà. Patrick Bruel, parmi les centaines de milliers de questions, dans les milliers d'interviews que vous avez déjà accordées, est-ce qu'on vous a déjà posé des questions sur la Nouvelle-Calédonie?
Pas souvent, non.
C'est
maintenant
que ça se joue.
Grosse carte à jouer pour les dates à Nouméa.
Alors, est-ce que c'est un sujet qui vous a interpellé, Patrick Bruel?
Donc je vais vous dire oui, forcément. On risque de vous décevoir.
Non, vous pouvez dire
que non. Il y a deux
heures
d'émission là-dessus, hein, Patrick. Donc,
On salue nos auditeurs là-bas. Si on a dit des conneries, vous n'hésitez pas, même au réveil, hein, non, si vous écoutez le podcast.
N'hésitez pas à nous dire quelles conneries on a dites.
Oui, on se corrige.
Vous avez vu, je ne me suis pas trop avancé.
Non, on sent le pro, quand même.
Il s'est bien débrouillé, Patrick. Et vous avez un peu ramé, mais on est arrivé au bout de ce sujet. Alors, Charline, demain, on reçoit Pascal Obispo. Au cas où vous n'êtes pas au courant. Il y a une ligne de train à grande vitesse qui traverse le Laos du nord au sud, qui est un chantier qui divise pas mal.
C'est un
Est-ce
bon
que
sujet
peut-être on peut avoir son avis sur le dos?
D'accord, ouais. je m'en charge, ce sera demain. C'est pas joli ce
non,
que vous venez de faire, mais c'est pas grave, je vous aime quand même.
Travailler en équipe.
Vous êtes mon partenaire depuis tant d'années. Bon.
Avec beaucoup de bienveillance, vous savez.
Alors ça y est, je peux y aller, c'est le grand moment. Oui. Hein, car elle s'est immergée tout l'après-midi dans notre bureau. Elle a donc découvert le monde merveilleux de l'open space en entreprise chez Jupiter. On va voir ce que ça va donner. Voici la Jupi Masterclass de Laetitia Doche.
Bah oui, bah déjà je voulais vous dire merci vraiment de tout cœur parce que j'avais un rêve, voilà. Moi j'ai jamais vu Rabbi Jacob, avant cette émission.
Vrai.
Ça fait des années que je cherche l'occasion de remédier à ça. Et puis que j'ai entendu des gens de plein de nationalités et de religions différentes qui disent tout le temps « Mais Salomon, vous êtes juif !» Et après ils rient, mais sans arrière-pensée, hyper good vibes. Et ça m'a vraiment interloquée parce que je me disais « Mais c'est quoi ce film qui parle d'un sujet si touchy et qui a pourtant l'air de mettre à l'aise tout le monde ?» Et ils rient sans gêne aucune, les gens, alors que quand même, actuellement, dès qu'on parle de religion, tout le monde marche sur des œufs. Je trouvais ça miraculeux. Et donc, je voulais pas le voir toute seule. Donc, j'ai fait une fête à la maison. J'ai invité tous mes voisins et on a bien rigolé. Donc, merci. Et aussi, pas merci, parce que, en fait, entre le moment où je l'ai vu et aujourd'hui, j'ai un peu eu des sueurs froides à l'idée de venir vous faire cette chronique, parce que c'est vrai que je voulais axer sur est-ce qu'on peut autant rire de tout aujourd'hui qu'en 1973. Je voulais arriver avec un point de vue très tranché sur les blagues de Rabbi Jacob. Ça, oui, on peut rire. Ça, non, on peut pas rire. Et tout d'un coup, en fait, j'ai eu peur que si ça se trouve, il y a des trucs qui me font rire, mais que sans m'en rendre compte, en fait, c'est pas hyper rigolo à des moments, et que ça va faire polémique, et que les gens ils vont penser des choses graves de moi, comme quoi je suis antisémite ou je sais pas quoi. J'ai même commencé. J'ai ma vie, j'y parais, ouais, en plus. J'ai même commencé à faire des cauchemars avec Éric Zemmour dedans, c'est vrai. Enfin bon, en tout cas, voilà, c'est le moment, donc on va parler des blagues de Rabbi Jacob. Et donc, la première blague, dès le début, donc on est à New York dans un taxi qui amène Rabbi Jacob à l'aéroport. Enfin, pas Rabbi Jacob tout seul, mais il accompagné de 7 rabbins qui sont entassés et qui sourient dans la voiture. Et là, le taxi est bloqué dans un embouteillage et Rabbi va sûrement rater son avion, à moins d'un miracle, dit le chauffeur de taxi. Et hop, le miracle a lieu, les 7 rabbins sortent de la voiture, portent le taxi au-dessus des voitures pour l'extraire de l'embouteillage. Et c'est très rigolo parce qu'ils ont les papillotes qui bougent tous ensemble et puis qui chantent en même temps. Et en plus, c'est rigolo et c'est pas antisémite comme blague. Parce que les miracles dans la religion juive, ils viennent pas du ciel, mais ils viennent de la solidarité. Donc ça, c'est hyper good vibes comme idée, c'est cool. Donc je vais pouvoir continuer à regarder le film tranquillement sans avoir peur de quoi que ce soit, quoi. Surtout que Louis de Funès, en face, il est vraiment très très bête et vraiment raciste contre tout le monde. Les Belges, ils les trouvent sales.
Oui. Ouais, ben.
Les Suisses, ils les trouvent fourbes. Il va péter un plomb devant un mariage entre un blanc et une noire. Et à ce moment-là, il va se prendre de la fumée d'un pot d'échappement dans la figure et il va devenir tout noir. Et là, gros malaise à ma direction des bazos, c'est là, oulala, blackface, on commence à rigoler. On pourrait pas trop faire ce genre de blague aujourd'hui. Et surtout qu'il y a des invités noirs du mariage qui vont venir le féliciter d'avoir marié sa fille. Donc ils le prennent pour le père de la mariée. Ça, et ça laisse quand même sous-entendre que les noirs sont assez idiots pour confondre quelqu'un de couleur. Donc là, vraiment, gros malaise, gros blanc. Non, en fait, c'est pas vraiment exact. Il y a quelqu'un qui a rigolé et c'était pas moi. Et puis après, il s'en est voulu. Hein. Mais bon, vous voyez, c'est pas si facile de comprendre quand est-ce qu'on peut rire. Moi, j'avais trouvé un truc en regardant un film qui s'appelle Rien que pour vos cheveux, où dedans, il y a 5 agents du Mossad qui se lavent les dents avec du houmous. Et moi, ça m'avait beaucoup fait rire, malgré moi, et je me sentais mal. Et je me suis dit, mais pense à l'inverse, Laetitia. Si c'était des Français qui se lavaient les dents avec une baguette de pain, est-ce que ça te ferait rire? Et je dis, ah bah oui, ça serait tellement con que ça me ferait rire. Bah tu vois, bah c'est pas discriminant alors, rigole. Donc avec Rabbi Jacob, j'ai testé un peu mon système de la baguette et des fois ça marchait, et des fois ça marchait pas trop. Quand Louis de Funès par exemple, il dit au commissaire algérien qu'il a misé sur le mauvais chameau ou qu'il lance « Merci famille cachère !» Et je m'enfonce un peu dans la marmite du chewing-gum du film, je sais plus quoi penser mais je rigole beaucoup. Mais c'est pas grave parce qu'à la fin, la fille du raciste, elle se marie avec l'espion arabe devant l'église avec la bénédiction du rabbin. Ouais. Donc message super respectueux, super égalitaire, mixité des religions. Et qu'en plus, après j'ai écouté la rabbine Delphine Orvilleur qui dit « Rabbi Jacob, ça dénonce que le marqueur de notre religion dans nos sociétés, il est trop mis en avant là où il devrait pas. On devrait toujours se dire juif, catho ou musulman en plus d'être autre chose. » Ben voilà, moi je suis catholique et en plus d'être autre chose, et j'aime Rabbi Jacob.
Ouais ! Merci Laetitia Doche pour cette Jupi Masterclass et cette relecture d'un Rabbi Jacob.
Mais vous êtes antisémite ou non ? Parce que ça, on n'a pas.
J'espère pas.
Non, je rappelle, catholique, elle a dit.
Je rappelle à nos auditeurs que vous incarnez Annie Ernaux dans Passion Simple de Daniel Arbid qui est sorti en DVD, les amis, et sur les plateformes. Donc voilà pour le. Voilà pour l'information.
Oui, c'est une belle information.
Mais oui, bah ouais, c'est l'information.
Il y a des scènes de cul à l'intérieur.
Ah, bah,
mais vous n'êtes pas que ça.
Passion simple. Non, merci Laetitia Doche. Merci à tous les amis. On se donne donc rendez-vous demain avec Pascal Obispo.
Wouh,
je suis
revenu.
Prenez le rire, pas comme ça. De toute façon, Pascal, il a tout piqué à Michel.
C'est quoi ça?